Le DAF est clair. Le DAF, c'est clair avec Torah Box et Ravishai Asayag.
Traité Yebamot, page 15, DAF Tetvav.
Bonjour à tous, le DAF est clair, Yebamot Tetvav. On a une marloquette entre Beth Shammai et Beth Hillel au sujet de la Tsarat Erva. Est-ce qu'on bat le droit de faire Iboum avec elle et l'obligation de le faire, d'après Beth Shammai, ou alors est-ce qu'au contraire, il est interdit de le faire, de se marier avec n'importe qui d'autre? Et on s'est posé la question hier, on avait une marloquette, est-ce que Beth Shammai ont appliqué leur halakha? La Gemara nous ramène que Rabbi Tarfon, qui était l'élève de Beth Shammai, avait dit qu'il aimerait bien avoir une situation de Tsarat Abat pour se marier avec elle. En d'autres termes, il voudrait accomplir la Torah de son maître, donc de son maître Beth Shammai. Donc on voit que Assour répond la Gemara, non pas qu'il voulait se marier, mais qu'il voulait lui permettre de se marier avec d'autres, et donc il voulait accomplir ce que Beth Hillel avait dit. Ah, mais si c'est comme ça, quel est le gros chidouch? C'est le courant principal, et donc pourquoi est-ce que Rabbi Tarfon avait dit t'es évani comme si c'était quelque chose de très important? Après la Gemara, c'était pour exclure la vie de Rabbi Yochanan ben Uri qui avait proposé d'obliger de faire Khalitsa à cette femme-là pour que autant Beth Hillel, autant Beth Shammai lui permette de se marier avec n'importe qui. Il voulait exclure cet avis-là et dire qu'il l'aurait marié sans lui faire faire de Khalitsa. Et moi, on ramène une autre histoire où Rabban Gamliel avait une fille qui s'était mariée avec son frère et son frère est décédé et Rabban Gamliel s'est marié, a fait Iboum avec la concurrente de sa fille. Donc on voit qu'il a appliqué la Torah de Beth Shammai. Refus de l'agma, mais Rabban Gamliel, ça fait partie du clan Beth Hillel, c'était un des petits-enfants de Beth Hillel. Et donc c'est évident qu'il n'a pas appliqué la Torah de Beth Shammai. Pourquoi est-ce qu'il s'est permis de se marier avec la sœur? Puisque la fille elle-même était aïlonite, elle ne pouvait pas avoir d'enfant, et c'est pour cela que, d'après Tanaka, d'après Rabban Gamliel, on s'est permis de se marier avec la concurrente. À demain l'agmara, cette explication a été ramenée par Akhirim et non pas par Tanakama. Et pour l'agmara, d'après tout le monde, on parle d'un cas où la fille était aïlonite, mais quelle est la raison pour laquelle on lui a permis? Il y a deux, on lui a permis de se marier avec elle. Deux raisons possibles, ou alors parce que c'était quelque chose qui était méconnu, personne ne savait, et donc quand on a su qu'elle était aïlonite, elle est devenue mekartaout, donc il n'y a jamais eu de mariage avec elle. C'est pour ça, d'après Tanakama, qu'il s'est marié avec elle, puisque l'aïlonite n'était pas, sa fille n'a jamais en vérité été mariée avec son frère, donc il a le droit de se marier avec la concurrente. Ou alors, d'après Akhirim, elle a toujours été, tout le monde le savait qu'elle était aïlonite, et pourtant on a quand même permis de se marier avec la Tsara, puisqu'elle est aïlonite, elle n'en rentre pas dans la course Iboum, et donc c'est pour ça que la Tsara doit faire Iboum. Autre explication, Tanakama pense que le frère de Rabban Gamliel avait divorcé de cette femme avant son décès, et donc la Tsara n'est pas définie comme une Tsara Terva. Akhirim pense que la divorcer avant ça ne sert à rien, puisqu'elles étaient mariées ensemble à un moment, donc elle devrait être interdite. Pour quelle raison elle a été permise, puisque c'est aïlonite? Autre explication, marloquette entre Tanakama et Akhirim. Cette femme-là a été mariée sous condition, la condition n'a pas été remplie. Donc Tanakama pense que c'est suffisant pour dire qu'elle n'a jamais été mariée, donc on peut se marier avec la Tsara, alors que Akhirim pense que ce n'est pas suffisant puisqu'il y a eu Kiddushin par un rapport. Et donc c'est pour ça qu'il fallait trouver une autre raison, on a basculé sur Aïlonit. Akhirim nous ramène d'autres histoires. Il y a marqué que Rabbi Akiva, quand il avait fait un maaser, il avait ramassé un étrog, récolté un étrog, le Rosh Chodesh Shvat, il avait fait maaser sheni, maaser ani, parce qu'il ne savait pas le définir. Est-ce qu'il était de la deuxième ou de la troisième année? Et pourquoi est-ce qu'il ne le savait pas? Parce que c'est une marloquette entre Beth Shammai et Beth Hillel. Est-ce que Rosh Hashanah Lailan, c'est Rosh Chodesh Shvat d'après Beth Shammai, ou Tu Bishvat d'après Beth Hillel? Et donc, on voit que Rabbi Akiva a été machmir comme Beth Shammai. Répond la Gemara que Rabbi Akiva, c'était pas qu'il voulait faire la vie de Beth Shammai. Il ne savait plus qui avait dit quoi. Il ne savait plus quelle était la vie de Beth Hillel, quelle était la vie de Beth Shammai. C'est pour ça qu'il s'est interdit. C'est pour ça qu'il a fait le maaser, les deux maasrot, pour accomplir la vie de Beth Hillel. Agman nous ramène que Shammai a une fois fait un srach sur le toit d'un berceau d'un de ses petits-enfants. Donc on voit que Shammai ont appliqué leur halakha. L'agman là-bas, ça ne dérange personne, puisque ça a donné l'impression que c'était simplement pour aérer la pièce. L'agman nous ramène qu'il y avait une pierre qui était reliée avec un mikvé. Et le trou qu'il y avait entre les deux n'était pas suffisant aux yeux de Beth Shammai. Ils ont élargi ce trou, puisque Beth Shammai pense qu'il faut, pour relier deux endroits, il faut que la majeure partie du mur soit détruite, alors que d'après Beth Hillel, on se suffit de deux etzbot. Donc on voit que Shammai ont appliqué leur halakha. L'agma, encore une fois, là-bas, ça ne dérangeait personne, puisque ça donne l'impression qu'il voulait simplement accroître le courant. Donc l'agma nous ramène que Rabbi Elazar Bar Tzadok, une fois, quand il était chez Rabbi Yochanan Bar Chorani, il a vu qu'il n'y avait pas suffisamment de quoi nourrir, de se nourrir. Donc il est parti voir Rabbi Tzadok. Son père, il lui a dit, il n'y a pas de quoi manger là-bas. Il lui a donné des olives. Et Rabbi Yochanan Bar Chorani a vu ces olives qui étaient trempées. Il lui a dit, non, moi, je ne mange pas d'olives. Alors il est parti dire à son père, papa, il ne mange pas d'olives. Il lui a dit, va lui dire qu'en vérité, la chavite dans laquelle étaient ces olives, elle était trouée, mais elle était simplement bouchée par des chemarim, et c'est pour ça qu'ils sont trempés. Pourquoi est-ce qu'il lui a précisé ça? Puisqu'on a une marloquette entre Beth Shammai et Beth Hillel au sujet du liquide qui sort des olives. Est-ce qu'on va le définir comme méperot, comme un jus de fruits, et donc ces olives, de toutes les façons, sont imperméables à la touma? Ou on définit ça comme de l'huile, et les fruits sont perméables à la touma? Mais puisqu'il a fait un trou qui veut dire « je ne suis pas intéressé que ces olives soient trempées, donc les olives sont imperméables », donc il lui a précisé, sache que Même d'après Beth Hillel, ces olives sont imperméables à la Touma. Et le chidouche, il est que Rabbi Tzadok lui-même était un élève de Beth Shammai. Il lui a dit, sache que moi j'ai accompli même d'après Beth Hillel. Je dis la Gemara, si tu me dis qu'en général les autres se conduisaient comme Beth Shammai, les autres élèves de Beth Shammai se conduisaient comme Beth Shammai, je comprends le chidouche de Rabbi Tzadok, mais si tu me dis que les autres n'accomplissaient pas, donc de toutes les façons on faisait comme Beth Hillel. Donc il n'y a aucun chidouche de préciser que Rabbi Tzadok était l'élève de Beth Shammai, donc on voit de là que Assou. Autre braïta, il est marqué qu'on a posé la question à Rabbi Yehoshua, est-ce qu'on peut se marier avec Sarah Tabat? Il leur a dit c'est une marloquette. Et là, l'alakha est comme qui? Il leur a dit mais je ne veux pas me prononcer sur quelque chose qui est une marloquette, sachant que certaines personnes risquent de me tirer les oreilles, ceux qui vont pas être d'accord avec ce que j'ai prononcé comme Beth Hillel, risque de me yarotsu el gulgoltim. Mais je peux vous témoigner que certaines de ces femmes sont parties se marier, avec, non pas avec leur beau-frère, mais avec d'autres personnes, et leurs enfants faisaient partie des Kohanim Gdolim. On dit là, voilà, je peux comprendre que si que la Torah de Shammai a été appliquée, c'est pour ça qu'il y a un risque. Ces femmes-là sont parties faire iboum, et les enfants vont venir faire une remarque à Rabbi Yehoshua, donc maintenant tu nous as rendu pas saoul. Mais si jamais la Torah n'a pas été appliquée, pourquoi est-ce qu'il avait peur des réactions? De toutes les façons, personne n'avait appliqué ce que Beth Shammai avait dit, forcément, ça avait oui été appliqué. On a Gemara, ok. Ça a été appliqué. Et donc ces femmes ont fait iboum, alors que d'après Beth Hillel, elles ne devaient pas faire iboum. Qu'est-ce qui s'est passé d'après Beth Hillel? Elles ont transgressé un karet. Mais d'après Beth Shammai, d'après Rabbi Yehoshua lui-même, un mamzer, c'est seulement celui qui est né d'une liaison interdite par Mitat Bedin et non pas par Karet. Donc de quoi avait-il peur? Pourquoi est-ce que les gens se seraient venus lui faire la remarque de toutes les façons, ils ne seraient pas Mamzerim? Pour la Gemara, c'est vrai qu'ils ne seraient pas Mamzerim, mais ils seront pas saoul les Keuna. Si déjà une Almana qui est interdite au Kohen Gadol, elle est interdite qu'au Kohen Gadol, son enfant est pas saoul pour la Keuna. Plus forte raison, cette femme-là qui a un statut de Eshet Achiv et donc qui transgresse un Karet, c'est sûr que son enfant sera pas saoul la Keuna. La Gemara pose une question. Quand on a voulu poser la question à Rabbi Yehoshua, on t'a demandé quelle serait la halakha de ces femmes-là. Est-ce qu'on a le droit de se marier avec elles ou pas? Et qu'est-ce que tu me réponds? Leurs enfants sont très bien. Mais même d'après Beth Shammai, leurs enfants sont très bien puisque c'est des femmes qui ont transgressé seulement un lav quand elles sont parties se marier avec quelqu'un d'autre. Et donc c'est évident qu'on a le droit de se marier avec les enfants. La Gemara nous répond, en vérité, deux questions ont été posées. Premièrement, est-ce que ces femmes ont le droit de se marier avec elles? Deuxièmement, quel serait, d'après la halakha, d'après Beth Hillel, le statut des enfants qui sont nés d'après les terres de Beth Shammai, c'est-à-dire les enfants nés d'une liaison de Yiboum, quelle serait la halakha? Je comprends pas pourquoi est-ce que c'est important pour toi, puisque de toutes les façons, c'est interdit de le faire. La Gemara nous explique que c'était pour utiliser la façon de Rabbi Yehoshua de trancher pour un cas. Donc la question c'était quoi? Si jamais ces enfants, ces femmes se sont mariées avec d'autres personnes, comme Beth Hillel avait validé, non pas comme Beth Shammai. Et elles ont eu des enfants, quel est le statut de ces enfants pour Beth Shammai? En quoi c'est intéressant pour moi? Pour savoir si jamais un enfant est né d'une liaison interdite punie par un lave, quelle serait sa halakha? De la même manière que cette femme qui, d'après Beth Hillel, devait faire iboum, elle est partie se marier avec quelqu'un d'autre, elle a transgressé un lave. De la même manière, un homme qui n'avait pas le droit de se marier avec sa femme, son ex-femme qui, entre-temps, s'est mariée avec quelqu'un d'autre et a divorcé de cette personne, lui, n'avait pas le droit de la récupérer. Les enfants seront cachés à la keuna ou pas? Quel était le fond de leur question? Est-ce qu'on va faire un kavachomer? Si déjà une femme qui n'était interdite qu'au Kohen Gadol, son enfant est pas sous la keuna, à plus forte raison, cette femme qui transgresse un interdit qui est applicable pour tous, que son enfant serait pas sous la keuna. Mais d'un autre côté, on pourrait dire aussi, là, l'almana, elle a créé quelque chose dans ce rapport. C'est-à-dire que avant ce rapport, elle était permise à tous les Kohanim. Et maintenant qu'elle a eu un rapport, elle est interdite à tous les Kohanim. Donc il y a une chumra dans l'almana par rapport à une groucha qui va se marier avec, hein, qui va revenir vers son ex-mari, puisque cette femme-là, à travers ce rapport, n'aura pas changé son propre statut. Elle était de toutes les façons interdite au Kohen. Donc, le kalvachomer n'est pas un bon kalvachomer. À ce sujet, Rabbi Yehoshua leur a répondu comme ça. Au sujet des tsarot elles-mêmes, je ne veux pas vous répondre. Pourquoi? Parce que j'ai peur de la réaction des enfants qui sont les deux iboum validés par Beth Shammai, puisque ces enfants sont pas soul, puisque la liaison, c'était une liaison interdite par un carré. Au sujet des enfants qui sont nés de ces femmes-là, qui sont parties se marier avec d'autres hommes validés par Beth Hillel, je ne veux pas vous répondre, mais sachez qu'il y a certains de ces enfants qui étaient Kohanim Gdolim. Donc on voit que ça a été accepté même par Beth Shammai, le fait qu'ils n'étaient pas psoulim. Donc on peut conclure de là qu'un enfant qui est né d'une liaison non cachère, était puni par un lave, il n'est pas pagoum. La Gemara conclut, ramène une braïta, on voit que Tsarat, que Beth Shammai ont oui appliqué leur enseignement. On va résumer rapidement ce qu'on a vu. On était toujours en train de rechercher est-ce que Shammai avait appliqué leur enseignement. On a ramené que Rabbi Tarfon voulait accomplir Tsarat Erva, non pas pour se marier avec elle, mais pour la permettre aux autres. Et donc, pour exclure l'avis de Rabbi Yochanan ben Nouri qui disait que d'après Beth Hillel, il faut faire Khalitsa, lui voulait prouver qu'il ne fallait pas faire Khalitsa. Rabban Gamliel qui s'est marié avec la Tsarat Bito, c'est parce que Bito n'était pas dans la course, ou alors parce qu'elle était élonite, ou alors parce qu'elle était divorcée, ou alors parce qu'il y avait une condition qui n'avait pas été accomplie. Rabbi Akiva qui avait accompli qui avait fait le maaser d'après Beth Hillel ou Beth Shammai, ça ne voulait pas dire qu'il voulait appliquer Beth Shammai, ça voulait simplement dire qu'il ne savait pas quelle était qui avait dit quoi. Beth Shammai qui s'était permis de faire du srach au-dessus de son petit-fils, qui s'était permis de transformer un mikvé pour le mettre à ses normes, c'était parce que ça dérangeait personne, puisque au sujet du srach, on pouvait dire que c'était pour aérer, et au sujet du mikvé, on pouvait dire que c'était simplement pour me permettre un courant d'eau plus fort. Rabbi Tzadok, qui a envoyé et expliqué qu'il avait tout fait dans les règles par rapport à la Touma, il avait percé le tonneau, c'est pour ça que les olives n'étaient pas téméotes, et il avait précisé qu'il avait fait comme Beth Hillel, alors que lui, il ne faisait pas comme Beth Shammai. Lui était l'élève de Beth Shammai, pardon, c'était parce qu'en général, ceux de Shammai avaient oui appliqué. Autre histoire avec Rabbi Yoshua, on lui a posé la question au sujet de Tzara Terva, on a conclu de là plusieurs choses. Premièrement, que Assou, et c'est pour ça que Rabbi Yoshua avait peur de la réaction de ceux qui avaient fait comme Beth Shammai, c'est-à-dire de faire Iboum. Deuxièmement, on a appris de là qu'une femme qui a transgressé un lave et il y a eu un enfant, cet enfant n'est pas passoul la keuna. On a appris aussi que Almana, le Kohen Gadol, elle est passoul la keuna elle-même et ses enfants sont aussi passoul. Et on a conclu que Hashamay Asou, c'est-à-dire qu'ils ont oui appliqué leur enseignement, le daf est clair, Baruch HaShem, et à demain, Bezrat HaShem.